Merci à l'équipe musicale. Qu'est-ce qu'on ferait, justement, sans Dieu dans la vie? Si Dieu n'était pas notre phare, ben on serait mort, effectivement. On serait encore mort. On serait encore, dans, malheureusement, dans nos péchés, puis c'est pas la volonté de Dieu. Avez-vous déjà essayé de changer de mode de vie? Hein? C'est pas toujours évident. Hein? Par exemple, ces temps-ci, on encourage beaucoup le mode de vie écologique. On va encourager quand vous allez, par exemple, finir votre boîte de céréales, plutôt que de la mettre dans la poubelle, vous allez mettre dans la récupération. Et si vous essayez de changer de mode de vie pour avoir un mode plus écologique, vous allez vous rendre compte que, finalement, on dirait que tous les aspects de notre vie est concerné. Hein? Là, vous allez faire attention quand vous brossez les dents pour fermer l'eau pendant que vous brossez, et puis vous allez peut-être mettre une brique dans le réservoir de la toilette, et etc. Vous allez penser à tous les aspects pour que votre mode de vie change. Ou bien, vous pourriez dire, j'ai changé mon mode de vie pour avoir un mode de vie plus actif, et là, vous dites, finalement, si je veux avoir un mode de vie plus actif, il faut que, encore là, tous les aspects de ma vie en soient influencés. Là, vous allez au travail, puis plutôt que de vous stationner sur le bord de la porte, vous vous stationnez dans le fond, et puis là, vous marchez, ou à la place de prendre l'ascenseur, vous prenez les marches. Quand on adopte un mode de vie, tous les aspects de notre vie en est influencé. Et que ce soit la simplicité volontaire, que ce soit un mode de vie écologique, ou peu importe. Ce que je veux qu'on voit ce matin, c'est pas nécessairement ces modes de vie-là qu'on peut avoir dans la société qui sont pas nécessairement mal en soi ou qui peuvent être bons, mais un mode de vie que Dieu veut que l'on ait. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers l'épître de Jacques. Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques au chapitre 3. On va continuer là où on était rendu. Retenez le mot-clé « mode », le mode de vie, OK? Et après ça, on va faire un lien avec ce mot-là. L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseigne qu'il y a trois sortes de sagesse. Il y a la sagesse que vous pourriez avoir d'une expertise, par exemple, avec l'âge ou avec l'expérience, des choses que vous avez apprises et puis que vous avez dans votre bagage et que vous pouvez, après ça, retransmettre. Des choses que vous avez prises d'une expérience que vous avez acquise. Il y a une sagesse qu'on voit aussi dans les Écritures qu'on peut appeler la sagesse humaine. Et le terme humain, je ne l'emploie pas au sens positif, mais plutôt au sens péjoratif. C'est-à-dire une sagesse très très humaine, axée et tournée vers nous-mêmes et vers notre propre personne. Et il y a la troisième sorte de sagesse qui est une sagesse divine, une sagesse qui vient d'en haut. Et cette sagesse-là, elle est directement reliée à notre relation avec Dieu. Que j'ai des capacités intellectuelles avancées, modérées, limitées, ou peu importe, cette sagesse-là, elle est possible pour chacun d'entre nous à avoir. Et elle reconnaît la souveraineté de Dieu, la révélation de Dieu. Elle se manifeste toujours dans notre vie, à tous les jours, et elle trouve sa source en Jésus-Christ. Elle s'établit dans la vie du croyant par le Saint-Esprit. Juste faire une citation dans Job 28:28, ça dit « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Êtes-vous sage et intelligent? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. C'est la question que pour chacun d'entre nous, on va se poser ce matin. Jacques va nous poser un autre test de la foi. Parce que dans l'épître de Jacques, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous brasse un petit peu. Hein, la façon que Jacques expose les choses, il va nous éprouver ou il va nous tester. Par exemple, il disait, tu dis que tu as la foi, OK, mais montre-moi-le par tes œuvres. Tu dis que tu aimes ton prochain, mais est-ce que tu fais exception de personne? Vous souvenez-vous le texte dans Jacques 1? S'il y a quelqu'un parmi vous qui entre et puis qui a de l'air riche, est-ce que vous dites, viens t'asseoir en avant? Et puis vous dites au pauvre, va t'asseoir en arrière. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, tu ne seras pas exception de personne. Alors Jacques, il va faire plusieurs tests de la foi. Est-ce que ma foi, elle est authentique? Est-ce que je suis un croyant authentique de ce que Dieu veut que j'expérimente? Et la sagesse n'est pas quelque chose qui est pris intellectuellement et qui ne se démontre pas. Pour Jacques, c'est un autre test de la foi. Ce qu'on va voir ce matin dans Jacques, dans le chapitre 3, on va voir que Dieu veut des enfants sages. Des enfants sages. Êtes-vous des enfants sages? Et comprenez le sens là, que Dieu veut qu'on soit. Là. Vous êtes peut-être un peu tannant, là. Mais est-ce que vous avez la sagesse que Dieu veut que vous ayez? Et c'est ça qu'on va voir. Jacques, qui va commencer. Je vais essayer d'être clair ce matin. Je vais essayer d'expliquer ça comme Jacques il l'explique. Parce que nous, on pense en termes de, un peu comme les Grecs, hein, on pense en termes de système, puis tout est bien divisé, on a un argument, on a une déclaration, plein d'arguments. Puis pour Jacques, lui, qui a une pensée juive, il va aborder plein de thèmes un après l'autre. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on lit Jacques, il a parlé de la sagesse dans le chapitre 1, il va en parler dans le chapitre 3, il va en parler plus tard, il va parler des paroles au début, il va en parler au milieu, il va en parler à la fin, et c'est assez circulaire, si je peux dire, comme réflexion. Et puis, on va voir comment est-ce que Jacques veut nous apporter à découvrir cette sagesse-là d'en haut pour que chacun d'entre nous, on puisse mettre en application. Alors, je priais que Dieu puisse ouvrir nos pensées, nos cœurs, justement, à sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Quand tu nous as sauvés, Seigneur, quand on a placé notre foi en toi, quand on s'est repenti de nos péchés, on a ce privilège immense que de pouvoir t'appeler Père, de pouvoir s'approcher de toi, de pouvoir dépendre de toi, vivre avec toi. Et ce matin, on veut ouvrir ta parole et on veut comprendre ce que tu as à nous dire. Et on te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, que tu viennes placer ton doigt dans nos vies, là où on a besoin de comprendre ce que tu veux qu'on change, ce que tu veux qu'on adapte dans nos vies, pour mettre en application ce que toi, tu désires. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. On va lire les versets, on va finir le chapitre 13, on est dans Jacques 3, on va lire les versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Levez la main. Non. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Hein, Jacques, il dit pas lever la main, il dit, y a-t-il quelqu'un qui est sage et intelligent? Qu'il le démontre par ses œuvres et puis par la douceur de la sagesse. On va arrêter là pour l'instant, on ne lira pas tout de suite le reste. Jacques, il commence en posant cette question-là. Et puis, il cherche à identifier si on est vraiment exercé dans l'art de la piété. On pourrait paraphraser peut-être sa phrase, en quoi est-ce que vous êtes sage et intelligent? Et puis la réponse va révéler non seulement notre caractère intérieur, mais aussi l'état spirituel de nos âmes. Lequel d'entre nous est sage et intelligent? Dans Jacques 1, tantôt je le disais, Jacques nous parlait sur la sagesse, et puis il nous parle que si quelqu'un manque de la sagesse, ça se peut-tu qu'à un moment donné, j'arrive à un point dans ma vie où je dis, Dieu, il me semble que j'en ai pas de sagesse sur cet aspect-là. Il me semble que je comprends pas ou ça marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'il la demande à Dieu. Puis Dieu, est-ce qu'il va prendre plaisir à la donner? Ben oui, Jacques, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement, et puis on va pouvoir en bénéficier. Mais qu'on doute pas, par exemple. Jacques, il nous dit, au verset 13, « Si quelqu'un est sage et intelligent, mais qu'il le démontre en œuvre. » Ça ressemble beaucoup à ce qu'il disait pour la foi. Si tu dis avoir la foi, mais démontre-la en œuvre. Si tu dis avoir la sagesse et l'intelligence, mais démontre-la aussi en œuvre. Il veut clairement nous faire comprendre que le mode fondamental, regardez la fin du verset 13, qu'il la démontre par une bonne conduite, dans quoi? Dans la douceur de la sagesse. Est-ce que vous avez remarqué mon panneau d'indication? Il est difficile à ne pas remarquer, hein? Jacques, ce qu'il fait, c'est qu'il nous conduit ce matin à une croisée de chemin. Qui que l'on soit, peu importe ce que l'on est, on est présentement dans un chemin. On est présentement dans un mode de vie. J'aimerais faire le parallèle que la sagesse qui est d'en haut, la sagesse qui est humaine, on pourrait appeler ça un mode de vie. Qu'on est dans un mode de vie et que l'on vit en fonction de la sagesse qu'on alimente dans nos vies. Et au verset 13, ce que Jacques est en train de nous dire, c'est qu'il nous pose la question, vous êtes dans laquelle? Est-ce que vous êtes sage et intelligent? Et chacun d'entre nous, on est en train de se placer maintenant, ou on est en train de reculer et se placer à la croisée des chemins. On arrive devant un Y, puis on a à se poser la question, et c'est ça que j'aimerais qu'on fasse ce matin. Dieu veut des enfants sages. Est-ce que tu as la sagesse et l'intelligence d'en haut? Et le mode de sagesse, j'aimerais juste insister sur le mot qui est là, douceur. Dieu va nous parler que sa sagesse va s'appliquer dans la douceur. Et c'est pas la première fois que l'on voit dans les Écritures l'insistance ou l'intérêt que Dieu a dans la douceur. On pourrait citer Galates 6.1. Si quelqu'un est pris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de... avec un esprit de douceur. Je vois mon frère, ma soeur qui a une difficulté dans sa vie, mais je vais aller l'aider avec de la douceur. Si je viens partager ma foi, Pierre nous dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre votre foi dans la douceur. Encore là, de répondre à chacun qui nous demande raison de notre espérance, mais qu'on le fasse avec douceur. Dans Philippiens, Dieu nous dit que, et pourtant le verset est facile, là, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le désir de Dieu, c'est qu'on vive cette sagesse-là, ce mode de vie-là, de sagesse qui vient d'en haut et qui s'applique par la douceur. On est en train de se faire placer, comme je disais tantôt, à une croisée de chemin où on aura à choisir le mode de vie ou à évaluer dans quelle sagesse on est en train de vivre présentement. Avez-vous remarqué la rue qui pointe vers ma gauche, vers votre droite? La rue de mon nombril, la voie de mon nombril et l'autre voie qui est un mode de vie de l'altruisme. Ce que Dieu va nous enseigner. C'est ce qu'on va voir à travers les deux sagesses que Jacques va nous conduire. Jacques, il va dire, montre-moi tes œuvres et je te dirai quel mode de vie tu te trouves présentement. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il le démontre par ses œuvres? Et on va pouvoir évaluer dans quel mode de vie est-ce que je suis en train de vivre présentement. On va continuer de lire les versets 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce que je veux qu'on voit en deuxième point, c'est une sagesse humaine. Regardez le verset 15, il commence en disant, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. » Il y a une sagesse qui est très humaine. Dieu veut qu'on soit des enfants sages, mais pas de cette sagesse-là. Regardez les mots qu'il va employer. Je vais juste vous lire une citation avant, une citation de Romains 1, tantôt on lisait dans Romains 3, et on voyait, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Est-ce que pour Dieu, je suis naturellement intelligent et sage? Non, j'ai besoin de cette sagesse-là d'en haut. Mais la sagesse humaine, elle me colle à la peau. Elle me colle, je l'ai dans mon cœur et elle cherche constamment à se manifester. Romains 1, ça dit, versets 29 à 31, parlant de l'homme étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une belle sagesse? C'est un état que Dieu fait de nos vies, de notre être, qui est peu reluisant. Le désir de Dieu n'est pas seulement de nous dire, regardez comment est-ce que votre intelligence, malheureusement, vous conduit nulle part, mais de nous amener à réaliser un besoin aussi. Regardez le verset 15. Il parle de « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Pourquoi est-ce qu'on la qualifie comme ça? Naturellement, on va se placer au centre de cette sagesse-là. Naturellement, on va nous-mêmes être le cœur de tout ce qui conduit cette voie-là. Si je m'embarque dans cette voie-là, ou si j'y suis, pourquoi je l'ai appelé de mon nombril? C'est parce que tout est tourné vers moi. Il va parler que ce chemin-là, ce mode de vie-là, il est terrestre, il est charnel de ma propre chair et diabolique. Comme je disais, tout est tourné vers moi. On lisait tantôt dans Philippiens 2 que ce que Dieu désire finalement, c'est qu'on ait un même esprit, une même paix, un même sentiment et qu'on ne regarde pas notre propre intérêt plus grand, mais qu'on regarde les intérêts des autres avant les miens. Et quand je suis dans ce mode de vie-là, je suis tourné vraiment vers moi-même. Regardez le verset 14. « Mais si vous êtes dans si vous avez dans votre cœur un zèle amer, c'est quoi la motivation de cette sagesse-là? C'est quoi qui me pousse à aller dans cette voie-là ou à aller dans ce mode de vie-là, un zèle amer? » On peut employer le mot « zèle » de différentes façons. Hein? Si je dis le mot « zèle », c'est quelque chose qu'on pourrait sous-entendre qui est une forte motivation, un fort encouragement. Si on dit que quelqu'un, hey, lui, il est zélé au travail, il fait plus que sa job, là. Il en fait plus que prévu. Un zèle, c'est ce que ça veut dire. C'est une forte motivation. Mais quand je suis dans cette voie-là, dans cette sagesse qui est terrestre, humaine, charnelle, diabolique, que Dieu nous dit, bien, elle est motivée par un zèle amer. Et regardez, en continuant le verset 14, il y a un esprit de dispute. Ce qui me conduit, c'est mes propres désirs. L'élévation de soi en notre société est quelque chose qui règne et qui aujourd'hui est l'opposé de ce que l'enfant de Dieu humble, désintéressé, généreux, aimable et obéissant est appelé à être. À la fin du verset 14, Jacques il dit « Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Est-ce que si je suis dans ce mode de vie-là, je peux dire, mais ce que je fais, c'est bon. Ce que je fais, c'est correct. C'est peut-être pas si pire que ça. Peut-être que Dieu, il l'accepte, parce que dans le fond, je fais de mon mieux. Je peux pas mentir contre la vérité. Et ce zèle amer-là nous emmène, avant que j'aille avec ça, tantôt, je disais qu'il peut y avoir trois sortes de sagesse. Par exemple, la sagesse expérimentale, la sagesse qu'on peut apprendre. Des fois, quand on pense à des sages, on pense à des gens tu sais, qui sont sous un arbre et puis qui ont une grande barbe blanche et puis qui peuvent prodiguer de grandes paroles sages. Et on va s'imaginer aller puiser la sagesse à cet homme-là ou à cette personne-là. Et la sagesse est quelque chose qui vient de l'extérieur dans un sens, comme des paroles d'un sage qui nous est dite ou d'une expérience qu'on a eue et que là, on en tire profit. La sagesse de ce mode de vie-là, il y a aussi une source de cette sagesse-là. Et je pense que si Dieu la qualifie comme terrestre, charnelle, diabolique, c'est qu'elle trouve sa source et sa motivation dans ces aspects-là, qui sont aussi d'ailleurs les trois ennemis du croyant. Ma propre chair, j'ai mes propres désirs personnels dans le fond de mon cœur qu'il faut que j'accomplisse mes propres désirs. Chacun d'entre nous, on est motivé et on trouve cette source-là à l'intérieur de nous-mêmes avec nos propres désirs personnels. Et on pourrait regarder aussi les Écritures encore plus en détail, mais le malin est aussi un ennemi, et notre ennemi. Si il appelle cette sagesse-là diabolique, c'est parce qu'elle a son sens aussi dans ce que Satan et tout son système veut nous communiquer. Vous souvenez-vous, à un moment donné, Pierre était avec Jésus puis d'autres disciples, et puis là, Jésus commençait à dire, il faut que les souverains sacrificateurs, que les anciens et que le Fils de l'homme soient amenés devant ces gens-là, qu'ils souffrent beaucoup et qu'ils meurent. Souvenez-vous ce que Pierre a dit? Il prend Jésus à part. Puis il l'emmène, puis là, il dit, là, Jésus, tu peux pas dire ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis il commence à lui faire des réprimandes. Laisse-moi juste trouver exactement ce qu'il dit, là. Il dit, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et puis, voyons, Jésus, tu peux pas dire ça. Ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas dire que tu vas aller mourir. Et là, Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que Pierre était devenu Satan? Est-ce qu'il était l'incarnation de Satan? Mais non, c'est pas ça le problème. Mais Jésus va l'expliquer en disant, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, pertinent que des pensées humaines. C'est pas que Pierre était possédé de Satan, mais nos pensées humaines, nos propres désirs, nos propres cœurs, nos propres motivations qui nous placent au centre de ce mode de vie-là, qui est la voix de mon nombril, qui fait que tout est dirigé vers moi. Mais voyons Jésus. Tu peux pas mourir selon la volonté de ton Père, ça n'a pas de bon sens. Regarde, on va trouver un plan, un autre plan. Puis Jésus dit non, arrière de moi, Satan. Parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu, puis tes paroles sont humaines. Nos motivations de cœur, nos paroles, notre sagesse humaine, Jacques, il la décrit comme terrestre, charnelle, diabolée. Quand je m'embarque dans une voie, à ce temps maintenant, c'est plus très populaire, on n'en prend plus vraiment des atlas routiers, là. C'est peut-être un GPS, quoi que ce soit. Mais on s'embarque dans une voie, puis là, on dit, tiens, je vais prendre la voie, cette rue-là, ici, cette avenue-là, et je vais regarder, voir à quoi elle ressemble. Et on peut même ouvrir la voie et puis voir, hey, elle semble rapide, elle semble facile, elle semble assez large pour qu'on puisse y circuler. Et souvent, ce mode de vie-là, cette sagesse humaine-là que Dieu nous enseigne, qui est axée sur notre propre personne, effectivement, on peut avoir cette impression-là qu'elle est facile, qu'elle est rapide, qu'elle est directe. Mais le problème, c'est que bien qu'elle peut nous paraître droite, notre propre voie, il faut regarder sa destination aussi. Et c'est quoi la fin de cette voie-là? Et si moi, en tant que croyant, je décide de peut-être mettre un peu pendant quelque temps cette sagesse-là qui vient d'en haut, puis de me conduire d'après mon propre mode de vie, alimenté par un zèle amer, peut-être alimenté par un esprit de dispute, et peut-être centré sur ma propre personne, mais regardez le résultat que ça va en faire, verset 16. « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a quoi? Du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Il y a un résultat à mettre en application cette voie-là. Des cœurs brisés, des foyers brisés, des alliances rompues, de la confusion, des luttes sociales, des guerres. Tout cela est nourri par une voie qui est centré sur notre propre sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il le démontre, qu'il le montre par ses œuvres, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Regardez, on va finir le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Puis le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si Dieu nous ramène à la croisée des chemins, c'est pour qu'on prenne conscience que peut-être, pendant une période dans nos vies, on est dans un mode qui malheureusement nous conduit à des mauvais fruits, des mauvais résultats. Et il veut nous amener à découvrir cette sagesse-là d'en haut, l'intelligence qui vient d'en haut et qui est accessible à chacun d'entre nous. Est-ce que par ma propre intelligence, je suis capable de faire la part des choses? Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Dans ma relation avec Dieu, j'ai besoin de découvrir cette sagesse-là, qui ne vient pas de la terre, qui ne vient pas de mon propre cœur, mais qui vient d'en haut, où j'ai besoin de dépendre de Dieu. Dans Jacques, il disait au verset 17, dans le chapitre 1, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Tout don parfait vient d'en haut. Toute grâce parfaite vient d'en haut. Cette sagesse-là qui vient d'en haut, que Jacques emploie la même expression, Dieu veut me la communiquer. Mais pour que je puisse la voir, pour que je puisse la prendre en main, puis que je puisse m'embarquer dans cette voie-là, il faut que je sois capable de dépendre de Dieu et de vivre cette relation-là avec lui, et de marcher dans la voie que j'ai appelée de l'altruisme. Parce que les mots que l'on voit, les sept caractéristiques qu'on voit dans le verset 17, c'est des termes qui nous emmènent vers l'extérieur, qui nous emmènent de nous décentrer de notre propre personne, qui est un zèle amer ou un esprit de dispute, mais qui nous emmènent plutôt vers les autres. Et ça, c'est la sagesse que Dieu vu que je vive, la sagesse qui vient d'en haut. Regardez le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement quoi? Pure. De plus en plus, on a adopté un mode de vie où on boit notre eau en bouteille, hein? Vous êtes d'accord? Et puis, peu importe la marque, la bouteille que vous achetez, ils ont tous la prétention, pour la majorité, de venir d'une source pure. Hein? Que ce soit, peu importe, là, Mirabelle, ou que ce soit tel glacier dans l'Antarctique. Et là, on a la prétention que d'avoir l'eau la plus pure. Hein? Buvez-vous votre eau pure. Mais la sagesse là qui vient d'en haut, la source, elle est pure. Source de vie, de paix, d'amour. Quand je réalise ça, c'est quoi je fais? Vers toi, je crie. La nuit, le jour. La sagesse d'en haut, elle est pure. Est-ce que tu peux expérimenter cette sagesse-là dans ta vie où elle est pure, où elle fait la part des choses dans tes paroles, dans tes actions, dans tes réactions, dans tes pensées, dans ton cœur? Tout seul avec moi-même, là, j'ai la misère à faire la part des choses entre ce qui est pur, entre mes propres motifs personnels et puis le désir réellement que de faire ce que Dieu demande. J'ai besoin que Dieu, même dans sa pureté, dans son intervention qui vient d'en haut, qui me donne la sagesse sur les motifs de mon cœur, sur mes paroles. La source de la sagesse, elle est pure et on peut crier vers lui. La nuit, le jour, constamment. Mais la sagesse d'en haut, elle vaut la peine qu'on emprunte cette voie-là. Si vous faites un pas de recul ce matin puis vous vous placez à la croisée des chemins, réalisez que le mode de vie, que la sagesse d'en haut, elle est bonne pour vous. Si on regarde dans l'Atlas où la sagesse humaine conduit, c'est des mauvais fruits. Mais la sagesse qui vient d'en haut va nous conduire à des résultats positifs dans nos vies. Il va continuer en disant que la sagesse d'en haut, elle est pacifique. Jésus il disait « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce n'est pas seulement qu'on veut avoir la paix, mais qu'on la recherche. Soyez en paix avec tous, autant que cela vous est possible. Et même, regardez le verset 18. Le fruit de la justice est semé dans quoi? Dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. Et même le mot qui est là est plus fort même que rechercher. On pourrait employer le terme des artisans, des gens qui créent la paix, des pacificateurs, des gens qui recherchent cette paix-là. Contrairement à l'esprit de dispute, bien, on recherche la paix et on la crée, la paix. Est-ce qu'on préfère la paix à la guerre? Bien, j'espère. Est-ce qu'on préfère la joie et l'harmonie que les chicanes et les disputes? Bien, j'espère que oui. Mais Dieu va nous communiquer cette sagesse-là. Est-ce que j'ai la sagesse que je suis capable d'avoir tout seul? Non, ça se peut que j'en manque. Demande-la à Dieu, que Jacques nous dit. Une sagesse qui crée la paix. Paul il nous dit dans Éphésiens de dire la vérité dans l'amour. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, de dire la vérité est quelque chose qui peut être dur? Mais absolument. Mais quand que c'est fait avec la sagesse que Dieu demande, dans la douceur, dans l'amour, bien, ça crée de bonnes choses. La sagesse, elle est modérée. C'est quoi le contraire de modérée? Comment? Immodéré. Ah, ça, c'était profond. Oui, ça pourrait être ça. Mais on pourrait dire des excès. Vous êtes d'accord, hein? Le contraire de modéré, on pourrait dire c'est de l'excès. Est-ce que dans notre société, est-ce que dans notre vie, il y en a de l'excès? Absolument qu'il y en a. Et de plus en plus dans notre société, on encourage même l'excès. Que ce soit de l'excès de nourriture, l'excès dans le travail, l'excès dans les dépenses, l'excès, on va peut-être pas nécessairement encourager les excès de vitesse, là, mais il y en a aussi, et de l'excès de l'alcool. Hein, Dieu n'a pas condamné de boire de l'alcool, mais il a condamné l'excès, le fait d'être contrôlé, d'être enivré, c'est encore l'excès. Mais un enfant de Dieu qui recherche la sagesse d'en haut, ben il accueille le fait que cette sagesse-là et ce mode de vie-là, c'est modéré. On pourrait employer un autre équivalent, peut-être équilibré. Le mot grec n'a pas d'équivalent satisfaisant en français, mais évoque l'idée de quelque chose qui est équitable, qui est convenable, qui est bienséant, qui est juste, qui est doux, qui est patient, qui est courtois, prévenant, qui est équilibré. C'est à ça que ressemble la sagesse qui vient d'en haut, le mode de vie que dans lequel Dieu veut que je sois. La sagesse qui vient d'en haut, elle est conciliante aussi. Elle est humble et disponible, comme celui dont Jésus parlait. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Conciliant. Plutôt que d'avoir constamment les dents sorties, puis d'avoir les poings fermés, puis de vouloir absolument faire valoir notre point, la sagesse d'en haut, elle est conciliante. Est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, je vais renoncer à mon intérêt personnel pour l'intérêt d'une autre personne? C'est ça le mode de vie d'une sagesse conciliante. Renoncer à mon intérêt personnel pour celui des autres. Ce qu'on voyait dans Philippiens tantôt, elle est encline à estimer les autres, de faire preuve de bonté, de grâce dans les rapports avec autrui. La sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Dans l'Écriture, la miséricorde consiste en une compassion active. Est-ce que vous faites preuve de miséricorde? La miséricorde, c'est plus que de dire « pauvre lui ». Hein? C'est peut-être qu'on le pense, mais c'est une miséricorde active où on va aider, où on va agir. C'est ça que Jésus, c'était comme ça que Jésus agissait. Il faisait du bien aux autres. Le mode de vie que Dieu veut que j'aie, avec une sagesse qui vient d'en haut, c'est une miséricorde active et pleine de bons fruits. On pourrait parler des fruits de l'esprit, on pourrait ouvrir la porte encore plus grande quand que je dépends de Dieu puis que je vis dans ce mode de vie et je recherche cette sagesse d'en haut. Mais le fruit de l'esprit va finir que par déborder aussi parce que je dépends de Dieu, parce que je recherche ce que Dieu peut me donner et je vais accepter ce mode de vie-là. À la fin du verset 17, il dit « Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. » À un moment donné, il y avait César Auguste qui revenait d'une bataille contre Antony à Actium. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, peu importe. César Auguste, il revient de la bataille victorieux. Et là, à Rome, la foule est rassemblée et tout le monde crie de joie. « Ouais, ouais, ben, salut Auguste, pas Auguste, César Auguste. » Et salut César, et puis tout le monde crie « victorieux ». Et là, il y avait un homme qui avait un oiseau sur son épaule. Et là, César, il voit cet oiseau-là qui crie « salut César, victorieux ». Et là, César, il est vraiment impressionné. On va voir cet homme-là. « Hey, ton oiseau est capable de dire ça, salut César, victorieux. Je peux-tu te l'acheter ?» Puis finalement, cet homme-là lui vend à gros prix et lui vend cet oiseau-là. Mais là, il y a un autre homme qui vient voir César et il dit « Savais-tu que cet homme-là, il y a un deuxième oiseau aussi qui fait des choses spéciales, qui est capable de dire aussi des choses? » Là, César était tellement impressionné, « Je vais faire venir cet homme-là puis je veux savoir qu'est-ce que son autre oiseau est capable de dire. » Et là, il fait venir l'homme avec son autre oiseau. Puis là, il dit « J'aimerais ça entendre qu'est-ce que ton autre oiseau est capable de dire. » Puis là, ben non, j'aimerais mieux pas, ça me gêne un peu, non, laisse faire. Là, César, non, je veux vraiment savoir ce que ton oiseau est capable de dire. Fait que là, l'homme, il dit, bon, OK. Fait que là, il demande à son oiseau de parler, puis son oiseau dit, « Salut, Antony, victorieux! » qui était l'adversaire de César. Ça, c'est de la duplicité et de l'hypocrisie. Hein? Les deux oiseaux, il avait formé ces deux oiseaux pour saluer César, puis l'autre, son adversaire, mais... La duplicité, c'est cette façon de faire où nos paroles sont équivoques, où notre... Tu sais, le mot hypocrisie, c'est le même mot en grec qui dit hypocrites. Et savez-vous par quoi qu'on peut traduire ce mot-là? Acteur. C'est une double face. Une double façon que d'être, de duplicité et d'hypocrisie. Mais quand je prends la voie, le mode de vie qui vient d'en haut, que Dieu veut que j'aie, et que je demande cette sagesse-là que Dieu me donne, mais elle est pleine de bons fruits. Ça se peut que je regarde l'Atlas et puis je me dis, mais là, Dieu, il me semble que quand tu me demandes de prendre la voie de l'altruisme, il me semble que c'est compliqué, il me semble qu'il y a des détours, il me semble qu'elle semble étroite, elle semble difficile. Mais quelle est la destination de cette voie-là? Plein de bons fruits, plein de bons résultats. Et cet Atlas-là, on peut l'imager par finalement ce que Dieu nous dit lui-même. C'est quoi la destination de cette voie ou de ce mode de vie-là d'une sagesse qui vient d'en haut? Plein de bons fruits. Et on n'a pas besoin d'argumenter longtemps pour dire que oui, on préfère vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la justice, dans ce qui est bien, dans la douceur. Ça, c'est la voie que Dieu veut que je prenne. Et qui que je sois, qui que tu sois, Dieu veut que tu sois sage et intelligent. On ne parle pas d'une sagesse intellectuelle, mais d'une sagesse qui se manifeste dans ta vie. Si tu peux dire « Oui, je suis sage et intelligent », Jacques il dit « Montre-moi tes œuvres. Montre-moi dans quelle voie tu as emprunté. Puis je vais pouvoir exactement confirmer où est-ce que tu en es. » La sagesse d'en haut, elle est juste. Et on voit un contraste évident entre les deux sagesses, entre leur origine. La sagesse qui est la voie de l'altruisme, son origine est en Dieu. La voie qui me mène, qui est la voie de mon nombril, mais son origine est dans ma propre chair, dans le péché. Elle est diabolique, il dit. Il y a un contraste aussi entre leur nature. Il y en a une qui est d'en haut et l'autre qui est d'en bas. Et il y a un contraste aussi dans leurs fruits, leur destination. Il y en a une qui semble bien pour un temps, mais qui conduit négativement. Puis il y en a une autre qui semble peut-être difficile, peut-être ardue, mais la destination de ce mode de vie-là, il est sain, il est bon, il est agréable pour ceux qui en profitent. La sorte de sagesse que quelqu'un possède est révélée par ses œuvres. C'est ce que Dieu vient de nous dire. Plus le chrétien possède la vraie sagesse qui vient d'en haut et la connaissance spirituelle, plus sa vie spirituelle deviendra une expérimentation de la sagesse d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut commence par une première étape, qui est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance où on accepte que Dieu vienne nous sauver puis qu'il fasse de nous ses enfants. Et que là, on développe une relation avec Dieu. Je disais tantôt que la sagesse qui vient d'en haut, on la développe à travers une relation avec lui. Mais si je ne suis pas en relation avec Dieu parce que je ne suis pas sauvé, je ne peux pas tirer cette sagesse d'en haut-là et l'avoir dans ma vie. Je peux essayer de l'imiter, la copier, mais la sagesse d'en haut, je ne peux pas la faire par mes propres efforts, par ma propre capacité, puisque j'ai besoin de l'aide de Dieu pour y arriver. Puis si j'étais un enfant de Dieu, qui je réalise ce matin que j'étais peut-être dans une voie qui était centrée vraiment sur ma personne. Ce que Dieu nous demande, c'est de confesser. C'est de reprendre cette voie-là que Dieu veut que je vive, cette sagesse qui vient d'en haut. Dieu veut des enfants sages. Je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce que ce que tu nous dis, Seigneur, tu ne le fais pas, tu ne le dis pas pour nous écraser, pour nous décourager. Tu ne nous le dis pas, Seigneur, pour qu'on abandonne, mais pour qu'on soit conscient de la vérité et de la réalité. Seigneur, on veut te louer parce que tu veux nous donner ta sagesse. Tu veux nous la communiquer. On en a besoin. Et Seigneur, on veut te la demander aussi. On veut, Seigneur, vivre dans ce mode de vie-là, que tu as placé devant nous, dans lequel tu veux que l'on marche. Et bien que parfois ça peut être difficile de renoncer à nos propres intérêts, on voit comment est-ce que toi-même, comment est-ce que ton fils renonçait à ses propres intérêts pour aller jusqu'à la mort de la croix, en laissant sa gloire au ciel, comme on le disait tantôt, pour venir comme un simple homme, comme un vrai homme. Et si toi, tu l'as fait, nous, Seigneur, qui sommes tes disciples, on veut prendre exemple sur toi. Et nous aussi, on veut s'engager dans cette voie-là, qui n'est pas centrée sur notre propre personne, mais qui est centrée sur toi et centrée sur notre prochain. Tu nous demandes de t'aimer, Dieu, de tout notre être, puis d'aimer notre prochain. Et c'est l'accomplissement, Seigneur, de ce que tu nous demandes dans la loi. Et c'est à ça qu'on veut s'engager. Et c'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.